Alors bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, je vais vous proposer d'ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, et on va lire du verset 14 à 30. Donc c'est la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors cette parabole, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, fait partie de plusieurs paraboles qu'on peut trouver dans la Bible, et qui sont destinées à nous appeler à la vigilance et à la responsabilité active, dans une période qui est marquée par le départ du maître et l'attente de son retour. Et juste avant, d'ailleurs, dans Matthieu 25, on peut trouver aussi la parabole des 10 vierges, qui nous enseigne aussi sur ce sujet. Et ces paraboles, donc y compris celles que je vous propose d'examiner ce matin, ensemble, elles sont là pour pousser le lecteur, nous, à nous auto-examiner. Alors sur quel sujet, quel aspect ? Ben simplement par rapport à cette question, notre frère a dit dans sa prière que nous attendons son retour, mais justement la question est, sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts pour le retour de notre Maître Jésus-Christ ? Et si ce n'est pas encore le cas, on peut se poser une autre question, qui est, est-ce que nous essayons de l'être ? Faisons-nous tout notre possible ? Alors on va revenir au texte pour le moment, et donc ce texte nous parle donc d'un Maître et de ses serviteurs. Il commence par nous expliquer que le Maître donc, doit partir en voyage, pour une certaine durée, une durée qui n'est pas vraiment spécifiée, on ne la connaît pas pour l'instant. Mais avant de partir, il confie donc la gestion de ses biens à ses serviteurs. Ensuite, le texte va nous apprendre un peu l'attitude et les actions que vont entreprendre justement ses serviteurs pendant l'absence de leur maître, avant qu'on puisse ensuite constater et voir le retour du maître, et que chacun aussi puisse prendre compte justement de ce qui s'est passé. Alors le maître, je pense que tout le monde l'a compris, il représente qui ? Jésus-Christ. Alors Jésus qui est descendu sur la terre pour nous, Jésus qui a donné sa vie pour nous, sur la croix, Jésus qui est ressuscité, puis Jésus qui est remonté maintenant au ciel pour nous y préparer une place près de son Père dans son royaume. Et enfin Jésus qui va bientôt donc revenir nous chercher, pour justement nous emmener dans son royaume. Alors quand ? Personne ne le sait. Tout comme on ne sait pas d'ailleurs quelle est la durée du voyage du Maître ici, on ne sait pas nous quand Jésus va revenir. Mais une chose est sûre, le Seigneur revient, va revenir. Son retour est certain. Et dans Matthieu 24, verset 36, on peut lire aussi « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc oui, Jésus revient, même si certains pourraient peut-être objecter que ça fait quand même 2000 ans, un peu plus même de 2000 ans qu'on l'attend, et qu'on le dit, qu'il va revenir. Et c'est vrai. Mais qui nous dit que, ça y est, c'est pas pour ce soir? Parce que c'est possible. Et à ce moment-là, on n'aurait plus que quelques heures pour préparer son retour, pour être prêt pour son retour. Alors, on pourrait dire que ça serait facile aussi d'ailleurs d'être prêt. On sait voilà, à quel moment il arrive. On va tout faire, en mettre en ordre. Mais même en sachant l'heure, je suis certain que ça ne serait pas si facile que ça d'être prêt, parce que vu l'état de notre cœur, vu notre orgueil, vu voilà, toutes nos faiblesses, je pense que même le sachant, on aurait aussi du mal à se préparer. Mais en nous laissant dans l'inconnu, justement, quant à cette date, le Seigneur, en fait, juge notre fidélité et juge notre foi. Alors, est-ce qu'on va répondre présent, justement, pour ce jour ? Alors, les serviteurs ici, dont il est fait mention, donc ils sont au nombre de trois. Et si le maître est Jésus, eux, qui sont-ils ? Alors, par définition, un serviteur, c'est une personne qui est vouée à une autre. Et le texte nous dit ici qu'il appelle bien ses serviteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas les serviteurs d'un autre, ce n'est pas des inconnus. C'est bien les siens. Le maître les connaît. Alors, si le maître, c'est Jésus, et que ses serviteurs sont les siens, est-ce que ça signifie que les serviteurs donc représentent les chrétiens ? Que ce texte s'adresse donc à des personnes converties, à vous mes frères et sœurs, à moi ? Alors la première lecture de ce texte, c'est un peu comme ça que je l'avais compris. Mais en creusant un peu plus, en lisant aussi quelques commentaires bibliques, il y a une chose quand même qui peut nous interpeller, c'est que si cette parabole s'adresse uniquement à des personnes qui sont converties, à des chrétiens, ben comment comprenons-nous le verset 30 ? Qui nous dit, donc par rapport au dernier serviteur, « Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Comment est-ce que Jésus peut-il dire à un chrétien qu'il peut être condamné et envoyé en enfer ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce verset, avec les ténèbres du dehors, c'est l'enfer. En fait, ça nous montre simplement que les serviteurs qui sont mentionnés ici sont des personnes qui sont rattachées effectivement à l'Église du Seigneur, ils servent le Seigneur, ils servent le Maître, mais elles ne sont pas forcément encore converties. Ou elles pensent l'être, mais ne le sont peut-être pas. Alors comment justement peut-on être rattaché à une Église sans être converti ? Bien, il faut savoir il faut se rappeler qu'un chrétien véritable, donc un converti, c'est une personne qui a compris effectivement qui est le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour lui, qui a demandé à Dieu pardon pour ses fautes, pour bénéficier ensuite du salut qui a été offert par le sang de Jésus-Christ, mais qui aussi aujourd'hui vit pour le Seigneur, avec une aversion pour le péché, et en faisant tout justement pour plaire au Seigneur. Un non-converti, si on peut dire, sera une personne qui va professer le nom du Seigneur, mais qui n'a pas compris la portée et le message de la bonne nouvelle, et qui ne peut pas donc porter des fruits de la repentance, dignes de la repentance. Il y a notre frère Sylvain, qui n'est pas aujourd'hui présent, mais qui nous avait pu partager avec nous il y a quelques semaines la parabole du bon grain et de l'ivraie aussi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ce qu'il disait, ce qu'il nous rappelait, c'est justement que ce ne sera qu'à la fin des temps que Jésus fera le tri et séparera les bons serviteurs des mauvais. Donc en attendant, il y a donc dans son église des serviteurs qui peuvent être des convertis ou des non-convertis, des chrétiens véritables ou non. Et alors, par rapport à l'auto-examen que je mentionnais un peu au début de ce message, où vous situez-vous ? Parmi les chrétiens véritables, ou parmi ceux qui vont professer le nom du Seigneur, le nom de Jésus sans comprendre et sans le vivre véritablement. Alors si on poursuit la lecture, on voit que chaque serviteur se voit confier un bien du maître ensuite, avant que celui-ci ne parte. Et ça nous montre encore une fois qu'il est bien difficile de pouvoir discerner qui est un chrétien véritable, qui ne l'est pas, qui est un bon serviteur, qui n'en est pas un. Parce que chaque serviteur, en ce passage, est appelé par le maître et se voit confier quelque chose. Alors vous pourriez peut-être me dire que les biens ne sont pas répartis de manière équitable entre les serviteurs. Il y a 5 talents pour l'un, 2 pour l'autre et 1 pour le dernier. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas être un indice aussi pour trouver un peu, parce que si on regarde la suite, c'est celui qui n'en a eu qu'un qui ne sera pas le bon serviteur. Alors, est-ce que ça ne peut pas être un indice pour nous aider à discerner qui est le bon serviteur, le converti, le chrétien véritable, avec le nombre un peu de biens confiés? Eh bien non, frères et sœurs, ça ne peut pas être aussi simple. Et puis si c'était le cas, est-ce que ça voudrait dire qu'un ministère est plus important qu'un autre? Que celui, par exemple, qui est pasteur sera toujours un chrétien véritable, quoi qu'il arrive? Mais si c'est ça, alors comment on explique qu'il existe aujourd'hui des hommes, des femmes qui se disent pasteurs, mais qui pour autant prêchent leur propre évangile, qui est bien souvent contraire aussi à la parole de Dieu? Est-ce qu'on devrait aussi se méfier des serviteurs qui sont dans l'église et qui vont participer au ménage, à la garderie, à des ministères que certains pourraient trouver comme moins importants que, en tout cas, le fait de prêcher? Est-ce que ça serait des faux convertis? Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas le savoir. Et encore une fois, seul Jésus va le révéler lors de son retour, et comme on va le voir aussi avec ce texte et la suite du texte. Mais alors pourquoi répartir un peu ses biens de cette manière-là? Pourquoi ne pas donner à chacun la même chose? On entend toujours dire que Jésus est la justice, mais est-ce que ça vous semble juste, encore une fois, 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier? En réalité, il n'y avait pas plus juste répartition. Et c'est écrit, le maître a distribué à chacun selon ses capacités. Il ne s'agit pas de favoritisme pour l'un ou pour l'autre. Et l'apôtre Pierre nous le rappelle aussi dans sa parole, dans Actes 10, verset 34, il le dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Mais le maître connaît chacun de ses serviteurs. Il connaît leurs forces, mais il connaît aussi leurs faiblesses. Il sait donc ce dont ils sont capables, mieux qu'eux-mêmes. Alors il va leur confier le nombre de talents adéquats pour que la tâche confiée soit réalisable au regard de leurs aptitudes. Et on a tous la même valeur pour Dieu, mais nous sommes pour autant aussi tous différents. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous, tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, on peut lire aussi « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme nous venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Alors oui, qui d'autre que Dieu, notre Créateur, est le mieux placé pour savoir ce que nous pouvons porter, ce que nous saurons faire? Alors ça fait plusieurs fois que je lis le terme « talent ». Je ne sais pas si chacun sait ce que c'est ou ce que ça représentait à l'époque. Mais ce mot, donc, il faut savoir que c'était une unité de mesure qui représentait à peu près 30 kilos. Alors, les puristes iront peut-être avec des décimales, un peu moins, un peu plus, mais c'est aux environs 30 kilos. Et un talent d'or, donc, c'était à peu près 30 kilos d'or. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque, cette somme, donc, ça représentait presque 20 ans de travail. Donc imaginez-vous à la place d'un serviteur qui voyait votre maître qui arrive et qui vous confie tout cet argent. Alors on aurait pu dire justement que ce serviteur qui avait qu'un seul talent, eh ben, il avait été un peu lésé, mais en réalité, sachant justement ce que ça représente, on peut déjà se dire que c'est déjà une belle marque de confiance de la part du maître, hein, de confier l'équivalent de 20 ans de travail, de salaire, à une personne. Et oui, les autres ont eu 2 ou 5 talents, mais le Seigneur savait, ou le Maître savait encore une fois, que ce serviteur, donc le dernier, précisément, était armé, en quelque sorte, pour gérer un talent, pas plus. Et donc, en confiant la tâche juste, justement, adaptée à chacun, le Maître implique également que le serviteur n'aura pas d'excuses s'il n'y arrive pas à gérer ce bien. Il ne pourra pas prétendre avoir eu une charge trop importante de travail, il ne pourra pas prétendre non plus que c'était trop compliqué pour lui, une tâche trop difficile à exécuter, non. S'il ne réussit pas, ben ça peut être ou signifier que 2 choses. Soit le serviteur a fait preuve de paresse, il n'a pas voulu faire les efforts, des efforts qui étaient pourtant à sa portée, soit le serviteur n'aime pas réellement son maître. Il ne l'aime pas suffisamment pour avoir envie de gérer les biens justement qui lui ont été confiés. Et alors justement, comment vont réagir donc ces serviteurs en l'absence de leur maître? On va pouvoir constater 2 comportements distincts. 2 serviteurs vont donc faire fructifier les biens. Comme il est écrit, ils firent valoir les talents, ce qui signifie qu'ils ont réussi à en tirer un profit, le profit qui était prévu. Alors, le texte ne nous dit pas exactement comment ils ont fait, ils ont peut-être pris un risque. Mais alors, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un risque démesuré, comme si nous, on allait au casino, allez hop, on fait tapis, et on espère qu'on va doubler la mise comme ça. Ça, je suis certain que ce n'était pas de cette manière-là que ces serviteurs ont agi. Et ils ont plutôt sûrement investi de manière mesurée, calculée, prudente, sage, parce que le maître leur a fait confiance. Alors ils ont voulu, eux, rendre cette confiance au maître, en essayant justement d'agir comme peut-être le maître lui-même l'aurait fait. Et cela a payé, les biens ont doublé, celui qui avait 5 talents en a maintenant 10, et celui qui en avait 2 en a désormais 4. Alors est-ce que le dernier serviteur a fait de même? Alors non. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le talent dans la terre. C'est une attitude qui peut paraître peut-être un peu surprenante, mais il faut savoir et se remettre aussi à l'époque que justement c'était une coutume courante et chacun allait souvent cacher son trésor, sa richesse, justement dans un champ. Parce qu'à une autre époque, on pouvait dire aussi ben, cacher son argent sous un matelas. Là, à cette époque-là, c'était plutôt dans un champ. Et donc ce serviteur a préféré mettre à l'abri le bien confié et attendre. Ça pourrait sembler prudent comme attitude, même si on va le voir, ce n'est pas ainsi que le maître va le considérer. Et donc dans un certain sens, encore une fois, les 3 serviteurs pourraient sembler fidèles. Les 3 sont capables à la fin de restituer le bien initial au retour du maître. Pourtant l'absence du maître a été longue, il revint après, ben, longtemps après. Alors ça ne nous dit pas encore une fois combien de temps, mais je pense que cette expression suffit à nous faire comprendre que c'était déjà une bonne durée, en tout cas suffisamment longtemps pour que les serviteurs puissent croire ou se dire que le maître ne reviendrait plus, que peut-être même il avait oublié qu'il leur avait confié une somme d'argent, donc les serviteurs auraient peut-être pu utiliser cette somme pour eux, mais tous, en tout cas aucun, ne l'a fait, ils ont tous bien gardé le bien de leur maître. Mais donc même s'ils vont tous restituer le bien initial, les 5 talents, les 2 talents, 1 talent, on va le voir, tout comme il y a eu 2 comportements différents dans la manière de gérer ses biens, bien il y aura 2 jugements différents prononcés par le maître. Avant de voir ces 2 jugements, il y a quelque chose à noter aussi au retour du maître, tout de même, c'est que le maître ne regarde pas le résultat au global. S'il l'avait fait, il aurait pu voir, tiens, j'ai confié 8 talents au départ, à la fin, j'en récupère 15. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Les talents ont fructifié. Et donc ça serait peut-être suffisant pour être satisfait. Mais non, parce que chaque serviteur est redevable de manière individuelle. Chaque serviteur a dû rendre compte. On ne peut être sauvé par les autres, on ne peut attendre que les autres fassent pour nous. Et c'est à nous de venir à Jésus de la même façon, c'est à nous de lui obéir, c'est à nous de le servir, chacun pour nous-mêmes. Alors le premier jugement du maître va concerner les deux premiers serviteurs. Pour rappel, ceux-ci sont tous deux capables de restituer le bien, mais également les intérêts gagnés. Ils ont répondu présent pour la mission confiée. Ils ont mis à profit l'absence du maître pour ensuite maintenant l'accueillir à son retour avec, on va dire, des bonnes nouvelles. Et ils sont appelés par le maître bon et fidèle serviteur. Est-ce qu'on n'aimerait pas être à leur place et que le Seigneur justement revienne, le Seigneur Jésus arrive et nous dit bon et fidèle serviteur. Alors attention tout de même, le maître ne les félicite pas ici parce qu'ils ont doublé la mise, encore une fois. Non, il les félicite parce qu'ils ont fait ce qu'il leur avait demandé. Ils ont bien géré, bien utilisé et ainsi fait fructifier les biens confiés. Ils ont été fidèles dans l'utilisation de ce que le maître leur avait donné. Et le maître félicite ici non pas le résultat, mais l'attitude. Ce qu'ils ont fait fructifier n'est en fait qu'un bien reçu. Confié à leur bonne gestion, et ce que l'on possède, on le reçoit. Et alors, si on suit le Seigneur, si on le sert fidèlement, le résultat, pour toujours et pour chacun d'entre nous, ce sera la joie du Seigneur. C'est ça le résultat, ce qu'on doit viser. Et ce, même si cela peut paraître difficile, dur aujourd'hui peut-être pour certains, n'oublions pas cette récompense qui nous attend bientôt. Et encore une fois, le Seigneur revient. Le troisième serviteur, lui, je disais tout à l'heure qu'il pouvait sembler prudent, voire même fidèle, parce qu'il a aussi été capable de restituer un talent, ce qui lui a été confié initialement, sans intérêt, mais quand même, voilà, c'est une belle somme. Mais si on regarde un peu plus dans le détail son attitude, on peut remarquer quand même rapidement qu'en réalité, ce dernier n'a pas eu à cœur de travailler pour le Seigneur. Au retour du maître, il se place même devant lui dans une attitude un peu de victime, voire même accusatrice. Il l'accuse d'être un maître dur, un homme qui lui fait peur. En quelque sorte, même, il va lui dire, par ses paroles, que si aujourd'hui il n'a qu'un seul talent à lui remettre, ben c'est un peu de sa faute au maître. Il va lui dire, je ne suis pas un voleur, tu devrais même être reconnaissant, hein. Prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Cette phrase nous montre que le serviteur n'a pas en réalité accepté le don de son maître. Contrairement aux autres qui l'ont pris comme le leur, ce don, qui l'ont fait fructifier, le troisième serviteur se sentait lui en dette. Il vivait avec un sentiment de devoir et non d'amour pour le maître. Et alors le fait d'avoir caché dans la terre le bien nous montre aussi son refus en réalité de vouloir vivre avec Dieu, de placer sa vie dans la relation de confiance qui a été établie par et avec le maître. Il ne profite pas des dons reçus, des ressources qu'il a reçues. Il ne cherche pas à faire comme le maître, à devenir comme le maître. Et pourtant, le début de la réponse du maître pourrait presque nous laisser penser encore une fois que le serviteur a raison, le maître est dur. Serviteur méchant et paresseux. Serviteur inutile, même un peu plus loin. Je pense que personne, en tout cas moi le premier, n'aimerait entendre qu'on dise ça de nous. Tu es méchant, paresseux, inutile. C'est effectivement dur. Hein. Qu'est-ce qu'on dirait de cette personne si elle nous disait ça? Je ne pense pas qu'on dirait qu'elle est douce. Et surtout que si on revient aussi au début de la parabole, on voit que le maître part, mais si on lit bien, en tout cas dans le texte, on ne voit pas de consigne particulière, il n'est pas marqué « faites fructifier », en tout cas dans ce passage, il est juste marqué qu'il leur confie un bien. Donc, à la rigueur, comment le serviteur aurait pu deviner qu'il aurait dû faire mieux que le cacher dans la terre? Mais sa fidélité apparente, justement, n'a pas paru suffisante aux yeux du maître. Parce que oui, le serviteur savait en réalité ce qu'il aurait dû faire. On ne voit pas la consigne, mais le serviteur savait. Et le maître lui rappelle rapidement aussi, il lui dit « tu savais que ». Il fallait que, voilà, c'est des informations, on le voit bien, le serviteur savait. Et pourtant, il n'a rien fait. Le maître les connaissait, on l'a dit au début, pour savoir quel nombre de talents il pouvait leur confier, quelles tâches il pouvait leur donner. Mais en même temps, les serviteurs connaissaient aussi leur maître. Et donc, ils savaient aussi ce que lui aurait fait s'il n'était pas parti. Et les deux premiers serviteurs, justement, nous montrent bien qu'ils avaient cette connaissance. Mais ce troisième serviteur n'a pas suivi l'exemple du maître. On pourrait comparer aussi ce passage, en tout cas ça m'a fait penser à Matthieu 5, versets 14 à 16, qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Là, on a cette image aussi de la lampe que l'on va cacher, comme ce serviteur a caché ce talent, ses ressources. Et oui, encore aujourd'hui, l'attente du Seigneur ne doit pas être une attente dans une religiosité intérieure, dans une ferveur particulière. Non, ça doit être un engagement actif qui doit nous mobiliser, nous, croyants, en nous invitant à mettre en œuvre les ressources confiées par le Seigneur. Alors Jésus a préparé, si on regarde aussi, ses disciples à son œuvre pendant 3 ans et demi. Il a vécu avec eux, il les a formés, il leur a prêché la parole. Une fois parti, il leur a confié une mission aussi, mais les disciples savaient aussi alors ce qu'ils avaient à faire et comment le faire. Et c'est pareil pour nous. Sa parole nous a été donnée, je l'ai là dans la main, il y en a au fond de l'église et je pense que beaucoup l'ont aussi chez eux. Et on peut la lire chaque jour. Donc on n'a pas d'excuse aujourd'hui pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande, pour utiliser à bien ce qu'il nous a confié. Et rappelons-nous encore, si besoin, que le troisième serviteur était quand même un serviteur du maître au départ, et qu'à la fin un terrible châtiment l'attendait. Jetez-le hors du royaume, dans les ténèbres du dehors, avec des pleurs et des grincements de dents. Il n'a pas bien géré le bien confié. Mais il ne s'agit pas là juste d'une petite réprimande. Comme un enfant, peut-être, qu'on peut envoyer au coin, en tout cas envoyer au coin par un de ses parents pendant 5 minutes, des fois même un peu moins, parce que c'est dur de faire une punition trop longtemps quand on voit son enfant qui pleure, en tout cas, je le dis. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On le rappelle, il peut revenir jouer, il peut revenir à table, il nous rejoint. Mais là, non, pas de retour possible. La séparation d'avec Dieu sera alors totale, est alors totale et éternelle. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Et de tout mon cœur, j'espère bien que non, et que ce n'est pas le cas, c'est pas ce qu'on souhaite, et qu'on réalise ce que c'est aussi. Parce que c'est que le paradis, l'enfer, c'est pas toujours évident de se représenter, c'est pas toujours évident d'imaginer comment ce sera, mais je suis persuadé qu'il ne faut surtout pas minimiser ce qu'est l'enfer. Et je vais m'arrêter aussi sur le verset 29 qui dit « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Alors comment enlever à quelqu'un quelque chose si celui-ci n'a pas? Alors ça c'est une question que je me suis posée, que j'ai eu un peu de mal au début quand j'ai lu ce verset. Parce que je n'arrivais pas à comprendre à quoi faisait référence le Seigneur en disant justement qu'on a quelque chose, mais qui nous sera ôté si on ne le sert pas comme il attend, et en même temps il dit qu'on n'a pas. Donc je trouvais que c'était un peu bizarre. Mais en réalité, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il a été donné à tous la parole de Dieu, mais que tous ne l'entendront pas. La grâce est donnée à tous aujourd'hui par Jésus, mais tous ne la recevront pas. Et à son retour, cette grâce qu'on a donc, même si on ne l'a peut-être pas tous encore reçue, nous sera enlevée si nous ne l'avons pas reçue justement. Donc à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Cette grâce qu'on a aujourd'hui, elle sera ôtée justement. Ça va pour celui qui ne l'aura pas reçue. Et alors la joie du Seigneur, qui est la récompense pour les deux premiers serviteurs, sera alors refusée et la porte du royaume sera fermé devant eux. Alors pour conclure, cette parabole nous montre que chaque serviteur agit De quelle manière? Selon l'image de Dieu qu'il porte dans son cœur. Elle nous indique, ou nous rappelle aussi, qu'un manque de service peut révéler un manque de conversion véritable. Encore une fois, on ne saura pas nous distinguer qui est le bon grain de livrer. Mais le service est un des facteurs, en tout cas, qui peut révéler ou qui révèle l'authenticité. Si tu dis être prêt pour son retour, est-ce que cela se voit dans ton service? Alors, je ne dis pas que ce sont nos œuvres qui vont nous sauver, hein, la parole nous met bien en garde là-dessus. Mais par contre, nos œuvres découlent de notre foi et celle-ci, donc nos œuvres devraient et doivent démontrer notre appartenance à Christ. Et nous qui peut-être nous disons justement serviteurs de Dieu, comment agissons-nous aujourd'hui? Comme les deux premiers serviteurs ou comme le troisième? Matthieu 7, verset 21 nous dit aussi « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors concrètement, quel talent, si je reprends le terme du passage, quelle ressource? Le Seigneur nous a-t-il confié en son absence? Qu'est-ce qu'il nous demande? Alors il nous demande à tous de le servir, comme à ses serviteurs justement. On est tous appelés à servir, à annoncer sa parole, avec pour ça différents dons, différentes aptitudes, des dons naturels, des dons spirituels. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, une intelligence particulière, un esprit de sagesse pour reprendre les dons spirituels, la connaissance, beaucoup de choses. Mais encore une fois, peu importe le nombre de talents, donc 5, 2, 1, peu importe le nombre d'aptitudes, peu importe le nombre de ressources, ce qui compte, ça va être la manière dont on va les utiliser. On est responsable de leur usage et nous-mêmes, nous devrons rendre compte à Dieu, à Jésus. Tout cela ne nous appartient pas, mais comment les investissons-nous? Quel usage en faisons-nous? Alors, ce qui nous est demandé, c'est de les utiliser au service de notre Seigneur, pour sa gloire. En nous rappelant aussi toujours que pour être témoin de Christ, il nous faut le caractère, la puissance particulière que seul Dieu donne par son Saint-Esprit. Et qu'encore une fois, cela ne peut pas venir de nous. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la patience, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. De Pierre 1, chapitre 1, verset 3 à 11. Qui nous rappelle aussi justement que celui qui a reçu la bonne nouvelle mais qui n'y prête pas attention ne pourra pas grandir, progresser et donc être prêt. Alors qu'à l'inverse, celui qui essaye de faire grandir cette relation avec Dieu ne cessera jamais de la faire croître et que lui sera prêt pour le retour de son maître. Et frères et sœurs, je vous invite aussi vraiment à réfléchir au comportement de ce troisième serviteur. Il faut avoir conscience, ayez conscience justement que celui-ci a gaspillé l'opportunité qui lui a été donnée de servir le Seigneur. Je disais tout à l'heure qu'on a déjà eu 2000 ans. Depuis que notre maître est parti en voyage pour nous préparer une place dans son royaume. Mais combien d'opportunités avons-nous déjà laissé passer, avons-nous gaspillé pour servir le Seigneur? Et combien en laisserons-nous encore passer? Mais surtout, en aurons-nous encore beaucoup à saisir avant qu'il ne soit trop tard? voire même en aurons-nous encore une seule avant son retour. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous permette justement de vous tenir prêt pour son retour.